RJB Info.
Le journal, Lydiane Guenin.
Bonjour. Les quatre candidats à la mairie de Bienne ont débattu ce matin sur RJB. Retour sur l'un des thèmes abordés, la représentation des francophones dans les autorités de la cité zélandaise. Le musée jurassien des arts de Moutier accueille deux nouvelles expositions dès dimanche. L'une d'elles est consacrée à Raphaël Himer, disparu prématurément. C'est sa maman qui nous présentera les œuvres. Un peu plus de 166 km attendent les coureurs du Tour de France aujourd'hui. Une étape sans grande difficulté qui devrait sourire aux baroudeurs et sprinteurs entre Bourg-en-Bresse et Champagnole. Le soleil va nous accompagner tout au long de la journée. Il fera chaud jusqu'à 25 degrés à Bienne dans le Zeeland et 24 degrés dans les Vallons. La mairie de Bienne restera-t-elle à gauche pour la prochaine législature? La question reste ouverte à un peu plus d'une semaine des élections biennoises. Le dimanche 27 septembre, les citoyens sont appelés à renouveler leur autorité pour les quatre prochaines années. Quatre candidats se disputent le fauteuil de maire de la cité zélandaise. Les deux sortants de l'exécutif, le socialiste et maire actuel Eric Fehr et l'UDC Beat Feurer, ont échangé ce matin en direct dans notre matinale avec les deux conseillers de ville, la PVL Sandra Gourtner-Rösch et Titus Sprenger de Passerelle. Le débat a porté sur une question brûlante dans la plus grande ville bilingue de Suisse, la sous-représentation des francophones dans les autorités biennoises. Alors comment corriger le tir? Titus Sprenger évoque la piste scolaire.
A priori, pour les encourager, c'est clair, j'ai déjà entendu parler du monde qui voulait qu'on traduise simultanément les séances du conseil de ville. Pour l'instant, c'était jamais un sujet au niveau du conseil de ville, mais peut-être ça va augmenter. Je sais pas, il faut tester, il faut aussi avoir le courage pour faire des tests. Hein. Peut-être ça va apporter quelque chose. En tout cas, renforcer le bilinguisme de toute façon, déjà au niveau des écoles. Hein. Et puis, ce qui me manque, c'est aussi surtout un encouragement au niveau de la société civile. C'est qu'on encourage aussi la population de parler plus souvent l'autre langue aussi, dans les associations, dans les clubs de sport, parce que c'est ça qui encourage aussi tout le monde pour s'engager dans le monde politique qui est un monde bilingue.
Faut-il traduire les débats au conseil de ville, monsieur Fehr?
À mon avis, non, parce que ça fait que les deux groupes linguistiques et les deux cultures ne doivent plus faire l'effort de se comprendre. Et comprendre l'autre groupe, c'est aussi comprendre sa culture, ça va bien au-delà des langues. Mais par rapport au conseil de ville, je suis aussi d'avis qu'il faut plus de francophones là-dedans. Et puis c'est tout simple, il faut que tous les partis se prennent l'exemple sur le PSR et le PLR qui présentent des listes francophones. Parce que c'est quand il y a des listes francophones qu'on peut faire des pas en avant. Par contre, au niveau du municipal, je trouve que la répartition actuelle entre trois germanophones, deux francophones, trois de gauche, deux de droite, c'est assez bien et ça pourrait être maintenu, je l'espère. Et la majorité au niveau du sexe va probablement basculer vers les femmes et ça, c'est bien aussi.
À l'heure actuelle, 25% de francophones siègent au sein du Parlement biennois, alors que 43% de romans habitent la ville. Faut-il instaurer des quotas pour équilibrer les choses? Beat Feurer n'envisage pas cette option.
Vous savez, je suis une personne avec une pensée assez libérale, je trouve. C'est effectivement l'électorat qui doit décider à qui ils donnent leur vote. Pour une meilleure représentation, je crois que c'est aussi un processus sociétal. Monsieur Sprenger a parlé des écoles. Ça commence déjà dans les écoles. On fait avec les filières bilingues déjà. On va déjà dans une direction qui est bien, avec l'entente sous les différentes cultures. Et là aussi, peut-être, je dois un peu contredire ce que Eric Fehr disait. Par exemple, l'UDC est le seul parti, la seule fraction qui est mélangée, vraiment bilingue. Ça aide, je trouve, quand on est ensemble. Ça aide aussi la compréhension de chaque culture. C'est des fois aussi nécessaire d'avoir plus de compréhension. Ce n'est pas seulement une question de représentation.
Madame Gourtner-Rösch, vous voulez réagir sur cette responsabilité des partis?
Monsieur Feurer a déjà fait la responsabilité de parti, c'est clair. Je suis absolument d'accord, mais je trouve le modèle PLR et PSR pas vraiment le bon. C'est des partis qui sont séparés, pas unifiés. Je trouve quand même bizarre. Et puis, selon moi, je ne suis pas d'accord non plus avec M. Feurer qui dit qu'on fait assez dans l'école. Nous avons trois systèmes dans l'école, un système alémanique, un système francophone, et puis après la filière bilingue qui n'a pas assez de place pour tous ceux qui aimeraient bien être vraiment bilingues. Nos enfants fréquentent des crèches bilingues jusqu'à 4 ans et après on sépare, on fait des montes séparés. Donc, on vit côté à côté au lieu d'ensemble. Et puis, ça commence, selon moi, exactement dans l'école. On sépare de suite des théâtres, même des parties. Donc, là, on a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment être unifiés comme une société ensemble et pas deux petits villages séparés.
Des propos recueillis par Natacha Mengoli. Vous pouvez réécouter ce débat en intégralité sur notre site rjb.ch et la rédaction de RJB se mobilisera évidemment le 27 septembre pour vous faire vivre ces élections en direct du Palais des Congrès à Vienne. Et d'autres maires doivent être élus dans la région. À la Neuville, ils sont 4 à se présenter pour remplacer Roland Maty qui doit passer le flambeau après 3 législatures. Le Parti Socialiste propose Isabelle Möchler. Du côté de Forum, la première force politique de la cité, c'est la franco-suisse Catherine Friot-Auclin qui se présente. L'UDC fait son retour sur la scène politique locale avec la candidature de Tony Gutmann et le PLR, lui, a misé sur le conseiller municipal André Courte. L'élection du nouveau maire de la Neuville aura lieu le 1er novembre. Deux expositions pour deux univers différents. C'est ce que propose dès dimanche le Musée Jurassien des Arts à Moutier. L'institution accueille l'artiste chinoise Mingjun Luo entre vide et plein, ombre et lumière. Elle met également à l'honneur un jeune artiste de Lanneville, disparu tragiquement à l'âge de 22 ans au Canada. C'était en 1998. Les œuvres intenses et détonantes de Raphaël Himer dormaient jusqu'à aujourd'hui. Elles ressortent au grand jour pour la première fois en Suisse, aussi sous la forme d'un livre soutenu par la Société Jurassienne d'Émulation. Un moment d'émotion pour sa maman. Elle nous parle de l'œuvre de son fils, Betty Himer.
Les autoportraits eux-mêmes, je trouve que c'est un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Raphaël. Il y a d'abord l'autoportrait où on le voit entier sans cheveux, bien sûr. Et puis après, il y a une fragmentation qui se fait, toujours plus fragmentée. Et il y en a un troisième qui n'est pas ici, où vous avez comme... C'est mon moment d'interprétation, hein, comme une âme qui part, comme un portrait entier de lui qu'on voit qui part du tableau. Et pour moi, c'est quelque chose de très prémonitoire malgré tout. Hein.
Pas de tabou sur la mort, pour lui c'était quelque chose d'important.
Pas de tabou, non, alors pas de tabou. D'ailleurs, il écrivait « Mon but, c'est pas de plaire aux gens ». Mais c'est d'exprimer ce que j'ai à exprimer. Il ne voulait pas savoir si c'est quelque chose qui plaisait ou pas.
Betty Himer répondait à Olivier Zanot. Les deux expositions seront vernies demain à 17h au Musée Jurassien des Arts à Moutier. Elles sont à voir jusqu'au 8 novembre. Les interventions militantes des nouvelles jeunes sénatrices vertes heurtent-elles la gente masculine majoritaire du Conseil des États ? La question mérite d'être posée après le clash du début de semaine opposant la verte neuchâteloise Céline Vara au libéral radical vaudois Olivier Français. Y a-t-il conflit générationnel et sexiste à la Chambre des cantons ? Les explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
C'était la fin d'après-midi au Conseil des États. Il y avait eu 5 heures qu'on débattait de lutte contre les pesticides. Il restait à se déterminer sur deux initiatives populaires que défendent les élus vertes en français. C'est le brouhaha, ces messieurs se sont levés, parlent fort. Adèle Torrent joue l'ironie en remerciant l'auditoire absolument pas attentif de son attention. Les Amazones tentent de recadrer le débat en insistant « Merci de votre attention ». Puis Céline Vara n'y va pas avec le dos de la cuillère en affirmant que, je la cite, « Dans nos rivières, nos campagnes, nous semons la mort », plaçant les décideurs politiques derrière le « nous ». Le PLR Olivier Français dénonce alors, je le cite, « une agression à l'égard de nos pères et de s'insurger, votre ton agressif m'indispose ». En coulisses, l'incident a fait jaser. Est-ce que la majorité masculine quinquagénaire du Conseil des États a un problème avec les jeunes élus vertes ? Céline Vara.
Il faut quand même rappeler que cette Chambre, elle a une moyenne d'âge de 55 ans. Le groupe des Verts, à majorité féminine, très jeune. Hein, on a une moyenne d'âge de 42 ans seulement, très minoritaire. Et dans ce contexte-là, peut-être qu'il y a parfois un conflit générationnel. Peut-être que parfois, effectivement, il y a cet effet femme. Peut-être que parfois, il y a cet effet roman aussi. Est-ce que mes collègues suisses-allemands nous écoutent moins parce qu'on parle en français ? C'est aussi possible? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on parle plus?
Heurtés, dérangés par ces jeunes élus vertes, les sénateurs masculins, est-ce leur mission d'être les gardiens du temple, Olivier Français?
Elles font ce qu'elles veulent, c'est pas mon problème. Madame Barra, comme d'autres, à droite comme à gauche, ils veulent utiliser un type d'expression qui n'est pas celui qui est l'usage de la Chambre des cantons. Pour moi, ça ne m'indispose pas, c'est pas un problème pour moi. Par contre, sur le fond, quand font des attaques sur les élus qui ont pris des décisions du passé sur la base de recommandations faites par des scientifiques qui, à l'époque, n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais ça, je ne peux pas l'accepter.
Le clash du débat sur les pesticides n'était pas le premier accroc générationnel et sexiste au Conseil des États.
RGB, il est midi 26.
Sport.
Le HC Saint-Imier entame une nouvelle ère. Il sera mené dès ce week-end par Steve Pochon dans le championnat de première ligue de hockey sur glace. L'entraîneur chaudefonnier a succédé à Michael Neininger cet été sur le banc des Bats. Il vivra ses débuts à la tête des Imériens à domicile demain avec la réception de Star Forward. Steve Pochon reprend une formation finaliste des derniers playoffs de première ligue. Il entend la mener aussi haut que possible, mais voit Université Neuchâtel et Franche-Montagne au-dessus du lot cette saison. Steve Pochon veut titiller les deux favoris avec sa méthode.
Je l'ai toujours dit, je ne suis pas un vendeur de rêves. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, émotif. Donc, je veux leur amener cette folie, cette envie de rien lâcher. Ça a été un petit peu ma marque de fabrique quand je jouais. L'équipe que j'ai eue jusqu'à maintenant, il fallait qu'il y ait cette folie, il fallait que ça patine et puis qu'on rende un petit peu à tout ce monde qui tourne autour du club et qui travaille pour le club, tous ces bénévoles qui voient quand même que sur la glace, ben, ça travaille et puis que ça respecte un petit peu le maillot. Et puis moi, ça, j'accorde beaucoup d'importance.
Davantage de la folie qu'une certaine structure dans le jeu?
Il y aura une structure, bien sûr. Défensivement, je crois qu'on essaie de mettre en place quelque chose de cohérent et puis de très simple, mais qui, je regarde un petit peu, même en Ligue nationale, se joue de la même manière. Quand je dis cette folie, c'est des gens qui même si on devait être mené pendant des matchs, et qu'on garde cette énergie, cette motivation, et puis qu'on ne soit pas amorphe, pas les têtes en bas. Donc c'est vraiment ce mot folie de motivation.
Steve Pochon répondait au micro de Mathieu Schaffner. Interview complète à retrouver sur rjb.ch. Saint-Imier défiera notamment le HC Franche-Montagne cet hiver en Première Ligue. Vous entendrez l'entraîneur ténion Michael Rutenmund à 18h. Le HC Bienne entame la deuxième partie de sa préparation estivale. Il débute ce soir le cinquième de ses 8 matchs amicaux. Les hockeyeurs célandais se rendent à Zoug à 19h pour un duel entre formations de National League. Le HCB tentera de renouer avec la victoire, lui qui reste sur une défaite face à Berne la semaine dernière. L'ISH Bienne aura fort à faire ce soir en Liga d'Inline Hockey. Les Célandais reçoivent la visite du leader, Buy, à 19h45. Avant-dernier de la hiérarchie, l'ISHB devra signer un exploit pour revenir à la hauteur de la barre. Baroudeurs et sprinteurs vont se jouer la gagne cet après-midi sur la 19e étape du Tour de France. Un tracé sans difficulté majeure attend les cyclistes entre Bourg-en-Bresse et Champagnole. 166 500 km qui ne vont pas remettre en cause la hiérarchie établie au classement général. Les leaders devraient en profiter pour passer une journée au chaud avant le contre-la-montre de la planche des belles filles demain. Présentation de cette 19e étape avec notre confrère de RMC Sport, Johan Bredeau.
Après ce triptyque alpestre éprouvant, les coureurs auront besoin de souffler pour cette 19e étape. 166 km entre Bourg-en-Bresse et Campagnole pour un parcours sans difficulté majeure à travers le Jura, la côte. De Château-Chalon au kilomètre 82, classé en 4e catégorie, ne devrait pas faire de dégâts. Attention quand même, car après le sommet, ça ne redescend plus. La deuxième partie de l'étape est accidentée et il faudra avoir de bonnes jambes pour espérer aller au bout pour l'échapper. Sauf si les équipes de sprinteurs décident de jouer la victoire. L'arrivée ne permet pas une bonne organisation du peloton, il faudra alors être bien placé à l'approche du dernier kilomètre pour éviter un effort qui serait fatal en cas de sprint massif. La dernière fois qu'une étape était partie de Bourg-en-Bresse, c'était en 2014 et à Saint-Étienne, c'est Alexander Christophe qui s'était imposé au sprint. La préfecture de l'Ain réussit donc bien aux coureurs les plus rapides du Tour. Est-ce que cela sera encore le cas sur cette édition 2020? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une belle bagarre, que ce soit dans l'échappée ou dans le peloton à Campagnole.
Merci de votre fidélité et très bel après-midi à tous sur RJB.
Allez, tiens, la suite, ce sera en musique avec Shawn Mendes et Camila Cabello notamment. On aura notre point CH à 12h40 en compagnie de Caroline Alves. Et la météo pour ce dernier jour de la semaine avec du soleil, beaucoup de soleil. quelques endroits où les cumulus vont se développer également. Ça va un petit peu cacher le soleil par-ci par-là. Rien de plus, la pluie devrait rester au placard encore pour aujourd'hui. Au niveau des températures, on ira jusqu'à 24 degrés du côté de Moutier, 24 également dans la vallée de Tavannes et pour le vallon de Saint-Imier. Il fera 25 à Bienne-et-Delémont, 26 pour la Neuville. Et les experts de Météo News qui nous prévoient demain un temps plus instable avec des passages nuageux parfois étendus dès le matin, porteurs de quelques faibles pluies. Le ciel sera toujours variable pour la seconde partie de journée avec quelques averses parfois orageuses possibles en fin de journée et contre la soirée. Par contre, au niveau du mercure, il sera toujours relativement bon, 23 à 24 degrés.